Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Gabriel Attal promet rigueur et responsabilité, mais les oppositions de droite et de gauche pointent surtout la responsabilité de l'exécutif dans le dérapage du déficit public. Sophie Delpont a suivi la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'industrie de défense doit produire plus et plus vite, estime le ministre des Armées. Sébastien Lecornu n'exclut pas de recourir à des réquisitions. Résistant, banquier, grand promoteur de l'économie sociale et solidaire, Claude Alfandéry s'est éteint à l'âge de 101 ans. Stéphane Robert reviendra sur son riche parcours et sur ses engagements. Le Hamas demande l'arrêt des largages de colis humanitaires à Gaza et l'ouverture d'accès terrestre à l'aide. Des Palestiniens sont morts en tentant de récupérer de la nourriture, nous dira Étienne Monin. Le dérapage a été qualifié de très très grave par le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. En 2023, le déficit budgétaire de la France s'est creusé à 5,5% du produit intérieur brut et non pas 4,9% comme prévu initialement par le gouvernement. Le premier ministre justifie cette situation par un ralentissement économique et il promet d'y répondre par la rigueur et la responsabilité. Mais Gabriel Attal a été chahuté par les oppositions lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Sophie Delpont.
C'est Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains, qui lance les premières attaques sur le sujet.
Monsieur le Premier ministre, la situation est grave. Elle est grave parce que vous avez menti aux Français. Vous saviez que vos chiffres étaient faux, le Sénat l'a montré. Vous parlez d'amputer la dépense sociale en oubliant bien de dire aux Français que cette dépense sociale, c'est 1. La retraite des Français, 2. La santé des Français.
Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, répond en justifiant les choix de l'exécutif.
La réalité, c'est qu'il y a un ralentissement économique, que face à ça, il faut évidemment une très grande rigueur dans les choix que nous faisons. C'est ce qu'a fait mon gouvernement en assumant un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit. Et donc, la ligne directrice que nous devons poursuivre, c'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage, parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances.
La députée de la France Insoumise, Charlotte Ledoux, interpelle le gouvernement sur les prochaines coupes envisagées dans les dépenses publiques.
C'est du jamais vu, c'est criminel. Oui, criminel, car vous précipitez l'effondrement de nos services publics. Vous attaquez les droits sociaux, vous creusez les inégalités.
Charles de Courson, député du groupe Liot, Liberté et Territoire, réclame un projet de loi rectificative, tout comme le groupe socialiste. Attaqué de toutes parts, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se contente de rappeler ses objectifs.
Alors maintenant, quelle est la direction à suivre? Rétablir nos finances publiques, revenir sous les 3% de déficit public en 2027, c'est l'engagement que je prends.
Bruno Le Maire recevra après-demain les chefs des groupes parlementaires à Bercy.
Sophie Delpont à l'Assemblée avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Nicolas Dupont-Aignan passe son tour. Le député Debout la France renonce à présenter une liste aux élections européennes. Il avait pourtant prévu de le faire, mais reconnaissait manquer d'argent pour financer sa campagne. Finalement, à 2 mois et demi du scrutin, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il jette l'éponge.
J'ai beaucoup réfléchi. Et puis je me suis dit, moi mon rôle, c'est d'être à l'Assemblée nationale et je ne conduirai pas de liste. Parce que, d'abord, il y en a plein de listes. Et au moment où la France est en faillite et où il y a ce conflit, mon boulot, il est de défendre une certaine idée de la France et de préparer les échéances suivantes qui me paraissent beaucoup plus importantes que les européennes. Après, vous avez toutes les nuances de souverainisme. Du plus souverainiste d'Asselineau, Philippot, Bardella, Marion Maréchal. Et vous voudriez que moi j'ajoute ma petite musique? Moi, j'ai pas le goût des petites soupes.
Nicolas Dupont-Aignan sur CNews. Le Rassemblement national, lui, caracole en tête des sondages pour les européennes et fait activement campagne sur son thème de prédilection. Il organise en ce moment des états généraux de l'immigration à la Maison de la Chimie à Paris. Et c'est en plagiant la droite des années 90 que le parti d'extrême droite compte faire recette, Antoine.
Ces états généraux de l'immigration sont une initiative du RN en partenariat avec le RPR. Rien à voir avec le parti chiraquien fondé en 1976 et disparu en 2002. Le RPR est désormais le micro-parti du député RN Franck Alizio, venu lui-même de LR. Le message est clair, il s'agit d'envoyer des clins d'œil aux électeurs de droite tentés par le vote Bellamy ou Maréchal, appuyés sur un sujet qui fait consensus au sein de ses familles politiques. La lutte contre l'immigration. Ces états généraux plagient également la convention de la droite de 1990 à Villepinte. Elle avait eu lieu après la défaite de Jacques Chirac face à François Mitterrand 2 ans avant. La droite et le centre réunis avaient nettement durci leur discours sur l'immigration. 34 ans plus tard, le message du RN se veut rassurant. Notre programme n'est pas plus à droite que celui du feu RPR. Pour tenter de crédibiliser son discours, le parti d'extrême droite va mettre en avant deux nouvelles recrues. L'essayiste Malika Sorel en deuxième position sur la liste des européennes. Nicolas Sarkozy l'avait nommée membre du Haut Conseil à l'intégration en 2009. Juste derrière elle, en troisième position, on trouve une autre figure de la société civile, qui devrait aussi longuement intervenir ce soir, Fabrice Leggeri, l'ancien directeur de Frontex, l'agence européenne de protection des frontières, agence qu'il a dirigée de 2015 à 2022.
Antoine Maret, exception faite de la période du Covid, la Cour nationale du droit d'asile n'avait jamais été autant sollicitée par des aspirants au statut de réfugié. Plus de 64 600 dossiers lui ont été soumis en 2023. La CNDA statue sur les recours introduits par les étrangers déboutés en première instance de leur demande d'asile en France. La hausse des recours a été de 5% par rapport à 2022, Florence Turne.
Une augmentation des recours, mais un nombre de décisions rendues qui va de pair. La Cour se félicite d'avoir réduit de près de moitié le nombre de dossiers en attente depuis plus d'un an. Dans chaque affaire, elle doit juger si le demandeur d'asile risque effectivement d'être persécuté dans son pays d'origine. C'est la condition principale pour bénéficier du statut de réfugié. Analyse particulièrement délicate l'an passé au regard d'un contexte géopolitique international très tendu. Sans surprise, les décisions de la CNDA dessinent un miroir des conflits du monde. Elle a dû s'interroger sur l'évolution de la situation en Ukraine, en Afghanistan, au Soudan, en Somalie, dans les pays du Sahel ou encore en Haïti. Statuer par exemple sur la question des Russes qui refusent d'être mobilisés au regard des risques de commettre des crimes de guerre. Les recours enregistrés en 2023 émanent de ressortissants originaires de 132 pays différents et au total, la Cour a ordonné plus de 13 600 décisions de protection entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire prévu par le droit européen. La Syrie reste encore le pays qui bénéficie du plus fort taux de protection, suivi par l'Iran, l'Ukraine, le Soudan et les territoires palestiniens. Le mois dernier, la CNDA a accordé l'asile à un jeune homme originaire de Khan Younes en estimant que la bande de Gaza connaissait une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle, une décision qui ouvre désormais la voie à une protection des Palestiniens issus de cette région.
Le gouvernement avait déjà augmenté les droits de scolarité des étudiants étrangers souhaitant s'inscrire à l'université. Il veut maintenant limiter l'accès à Parcoursup pour les étudiants non issus de l'Union européenne. Toutes les formations sont concernées et plus particulièrement les BTS et les études d'infirmière. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
La FAGE, premier syndicat étudiant, et la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières sont vent debout contre ce texte et viennent de déposer un recours auprès du Conseil d'État.
Oui Aurélie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche justifie cette décision en expliquant qu'elle permettra de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine. En effet, il estime que dans ces filières, de nombreux étudiants étrangers s'inscrivent uniquement pour avoir des papiers pour venir s'installer en France et ensuite ne suivent pas forcément de manière assidue les cours. C'est pourquoi il souhaite limiter pour les étudiants qui s'inscrivent dans les études d'infirmière le nombre de vœux sur Parcoursup à 3 contre 5 par exemple pour un étudiant français. Ce qui est littéralement discriminant, estime maître Florent Verdier, l'avocat de la FAGE.
Les établissements d'enseignement supérieur doivent concourir à la réussite, à l'orientation de tous les étudiants, sans distinction. Ces textes-là qui visent à interdire pour certains étudiants certaines formations et à limiter d'autres formations portent une atteinte disproportionnée à ces objectifs, à ces missions de l'enseignement supérieur et au principe d'égal accès à l'enseignement supérieur.
Une décision incompréhensible, d'autant que le système de santé en France manque cruellement d'infirmières et fonctionne en partie avec des professionnels de santé qui viennent de l'étranger, tient à rappeler Maëlle Nizan, la présidente de la FAGE.
On a eu le passage de la loi immigration là il y a quelques mois qui venait déjà mettre en place des mesures qui stigmatisent les étudiants étrangers. Et ce décret et cet arrêté vont dans le même sens, alors que les étudiants étrangers et étrangères sont en effet nécessaires pour la société française. 40% des chercheurs aujourd'hui en France sont étudiants étrangers et étrangers. Donc on voit aussi que c'est une richesse et non pas un problème ou un coût. Et là, on voit encore une nouvelle stigmatisation. Mais c'est aussi une réelle problématique pour l'économie française parce que ça va à l'encontre en fait de nos objectifs.
En attendant, le Conseil d'État devrait rendre son arrêté sur une éventuelle suspension du décret d'ici la mi-avril.
Hakim Kasmi, il est décédé paisiblement à 101 ans, fait savoir sa famille. Claude Alfandéry s'est éteint hier soir. Jusqu'à il y a une semaine, il restait très actif intellectuellement, précise l'un de ses fils, et réfléchissait même à la façon dont on pouvait encore se mobiliser contre la montée de l'extrémisme en France. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Claude Alfandéry est une grande figure de l'économie sociale sociale et solidaire qu'il a inlassablement soutenu, mais c'est loin d'être son seul engagement.
Non, effectivement, car Claude Alfandéry fut d'abord un résistant. Il s'engage en 1941, à l'âge de 19 ans, en distribuant clandestinement les premiers journaux de la résistance à Lyon. Puis en 1942, il s'engage véritablement et il est envoyé dans la Drôme où il va unifier les groupuscules de résistants qui se sont constitués. Dans l'émission à voix nue diffusée sur France Culture en mars 2016, il est longuement revenu sur cet engagement dans la résistance.
C'était insupportable de voir la France réduite dans l'état où elle était. On avait vraiment le sentiment que notre pays n'existait plus et on avait besoin d'un pays digne et honorable. Toute l'histoire de notre pays, elle nous revenait d'une façon amère quand on voyait ce qu'il était devenu. Donc c'est par patriotisme. Et puis, au-delà du patriotisme, on était très manichéen. C'était vraiment le bien contre le mal.
Au lendemain de la guerre, Claude Alfandéry s'engage politiquement au Parti communiste. Puis il reprend ses études et intègre la deuxième promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration. Il se spécialise dans les questions financières et est envoyé en tant qu'expert à l'ONU à New York. De retour en France, en 1960, il participe à la création d'une banque, la Banque de reconstruction et des travaux publics, banque qu'il dirige jusqu'en 1980 et qui va vite devenir une entreprise phare du CAC 40.
J'ai réussi à mettre au point le crédit hypothécaire qui manquait. Parce que pour acheter des logements qui impliquent un effort en capital important, on peut pas rembourser vite. Donc il fallait trouver le moyen de créer des crédits aussi longs que possible. Jusque-là, les plus longs étaient à 12 ans. Nous avons créé le crédit à 20 ans. Et à travers ça, la banque que j'ai créée à ce moment-là a rapidement développé une activité considérable. De ce point de vue-là, il y avait succès.
Malgré ce succès dans les affaires, Claude Alfandéry reste un homme de gauche. Après avoir quitté le Parti communiste en 1956, il se rapproche du Parti socialiste et de Michel Rocard dans les années 70 et devient également actionnaire et administrateur du journal Libération. À la fin des années 80, il crée un autre établissement financier, France Active, qui se spécialise dans le prêt bancaire pour les chômeurs qui souhaitent créer une entreprise. Et en ce sens, il est considéré comme le fondateur en France de l'économie sociale et solidaire. À la toute fin de sa vie, vous l'avez dit, il regardait avec inquiétude la montée en puissance des régimes autoritaires partout dans le monde et des partis populistes en Europe. Le 4 mars dernier, sachant qu'il allait mourir, il avait envoyé une lettre au Nouvel Obs dans laquelle il appelait la population à se mobiliser pour empêcher l'avènement d'une nouvelle nuit noire de l'humanité.
Stéphane Robert, comment éviter l'uniformisation des centres-villes? On voit de plus en plus les mêmes enseignes partout et de moins en moins de commerces indépendants. À Lyon, l'implantation programmée d'un KFC en plein centre à deux pas de la mairie tenue par les écologistes a relancé le débat. La ville a décidé de convoquer des assises du commerce à l'automne pour essayer de faire bouger les choses, Mathilde Imberti.
La ville a contesté en vain. Un KFC va bien s'implanter rue de la République, l'artère centrale aux beaux commerciaux exorbitants. Camille Auger est l'adjointe à la ville de Lyon, écologiste en charge des commerces.
Ce sont des endroits dans Lyon où en fait seules des grandes chaînes comme ça, très rentables, peuvent s'installer parce que le loyer est très cher. Alors effectivement, il faut savoir que les collectivités possèdent assez peu de leviers. La ville de Lyon pousse avec d'autres collectivités, puisque c'est la ville de Lille notamment qui l'a proposé la première, la question de l'encadrement des loyers commerciaux. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'État. En tout cas, nous, on serait très favorables à ce type d'expérimentation.
Et la multiplication des fast-foods se matérialise au moment où plusieurs commerces historiques annoncent leur fermeture définitive. Un chausseur, un vendeur de meubles ou encore un chapelier. Pour l'association de commerçants Maille Presqu'île, il est temps de réagir. Sa présidente, Johanna Benedetti.
Par exemple, sur un axe comme la rue de la République, où on a massivement des implantations de chaînes de street food, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre en place des zones de préemption, d'installer des périmètres de sauvegarde. Et je pense aussi qu'il faut envisager des fiscalités peut-être plus favorables aux commerces indépendants et artisanaux sur les territoires.
Un régime fiscal favorable aux commerces indépendants, un encadrement des loyers pour eux, quelques pistes présentés ici ou là qui seront débattus lors des assises du commerce programmées à l'automne.
Mathilde Imberti à Lyon. Il y a deux ans, Emmanuel Macron avait employé la formule « économie de guerre » pour relancer l'industrie de défense française moins dynamique depuis la fin de la guerre froide. Ce matin, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a souligné l'urgence liée à la guerre en Ukraine. Les cadences de production doivent accélérer, insiste le ministre, qui ne s'interdit plus de procéder à des réquisitions, Éric Biégala.
C'est une évidence, les cadences de production des armements ne suivent pas le rythme ni de la guerre en Ukraine, ni même celui d'autres engagements, comme par exemple celui des frégates françaises en mer Rouge, lesquelles ont déjà tiré 22 missiles anti-aériens contre les drones ou les missiles des Houthis. Il faut que l'industrie suive, qu'elle produise davantage et plus vite, a martelé Sébastien Lecornu.
Pour la première fois, je n'exclus pas, si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, de faire des réquisitions ou de faire jouer le droit de priorisation, d'imposer aussi des stocks minimaux. Au moment où nous sommes, y compris de la situation sur la ligne de front en Ukraine, personne ne pourrait comprendre que le ministre des Armées ne fasse pas jouer ses pouvoirs de police. Donc ces questions de réquisition et de pouvoirs de police sont évidemment clairement sur la table au moment où je vous parle.
La réquisition des entreprises n'est pas le premier des outils qu'il utilisera, corrige aussitôt le ministre. En revanche, une injonction de priorisation des productions militaires pour les entreprises qui travaillent aussi bien pour le civil que pour le militaire est à l'ordre du jour.
Sur la priorisation, oui, à court terme, je n'exclus pas de le faire. Je m'explique. Sur missile Aster, la question de prioriser chez les sous-traitants d'MBDA pour le missile Aster, la commande militaire en priorité sur une commande civile est quelque chose qui est évidemment complètement regardable.
La base industrielle et technologique de défense française compte autour de 4000 entreprises. La plupart sont des PME.
L'envoi d'aide humanitaire fait des victimes à Gaza. D'après le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, les largages d'aide par avion ont fait 18 morts, soit par noyade, soit dans des bousculades. Et le mouvement islamiste palestinien demande l'arrêt de ces distributions aériennes, Étienne Monin.
Sur une des vidéos postées sur le réseau social X, on voit un nuage de petits parachutes noirs en bord de mer, des Gazaouis qui se jettent à l'eau au milieu des vagues pour récupérer les paquets et un homme sur le sable, visiblement noyé, que des mains essayent de ranimer. Depuis des semaines, les Gazaouis dénoncent ce type de largage de l'aide humanitaire par avion. C'est un mauvais pansement, dit Ziad Medouk, professeur de français resté dans le nord de l'enclave, joint par WhatsApp.
Ces cartons, malheureusement, soit ils tombent dans la mer de Gaza. Et souvent, ces cartons tombent sur les toits des maisons et quelquefois sur la tête des personnes palestiniennes, surtout dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Les aides humanitaires n'arrivent pas. Il n'y a même pas 3 camions qui arrivent par jour. Et dans ces camions, il n'y a pas grand-chose.
La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie font partie des pays impliqués dans ce type de distribution. Les ONG estiment qu'elles ne servent à rien dans l'océan des besoins. Elle plaide pour une levée des restrictions imposées par l'armée israélienne sur les files de camions qui attendent en Égypte à la frontière. Le nord de Gaza est aujourd'hui menacé par la famine. Le sujet de la distribution alimentaire est devenu un intense terrain de communication pour le Hamas et Israël.
Israël qui quitte les pourparlers de Doha. Selon un haut responsable israélien, les tractations pour tenter de parvenir à un accord de trêve étaient dans une impasse en raison des exigences du Hamas. Le président américain Joe Biden déplore un terrible accident à Baltimore. Percuté par un porte-conteneur, un grand pont autoroutier s'est effondré, entraînant des véhicules et des personnes dans sa chute. Il y aurait 6 disparus. Lors de son appel au secours, l'équipage du porte-conteneur sous pavillon de Singapour avait expliqué être confronté à une panne du système de propulsion du navire. À l'issue d'une grève historique en Allemagne, les conducteurs de train de la Deutsche Bahn obtiennent le passage à la semaine de 35 heures ainsi qu'une augmentation de salaire. Le bras de fer durait depuis plus de 4 mois et il avait entraîné des perturbations massives dans le trafic passager et fret. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir.
Correspondant de France Culture en Allemagne, vous avez suivi ce conflit social qui aura été, Sébastien, l'un des plus durs et les plus coûteux de ces dernières années pour le rail allemand.
Ah oui, Aurélie, un interminable conflit marqué par une série de 6 arrêts de travail depuis novembre dans un pays pourtant réputé pour la qualité de son dialogue social. Les négociations ont été particulièrement difficiles avec un syndicat inflexible qui avait fait de la réduction du temps de travail une condition non négociable. Le passage à la semaine de 35 heures contre 38 aujourd'hui sera progressif en 4 étapes jusqu'en 2029 et sans perte de revenus. Les salariés qui le souhaitent pourront travailler jusqu'à 40 heures par semaine avec un bonus salarial, s'ajoute une prime de 2 850 € pour compenser l'inflation et une hausse de salaire mensuel de 420 € à partir de l'année prochaine. Pour la Deutsche Bahn, la facture de cette vague de grève est conséquente. Pour la seule année dernière, les arrêts de travail ont coûté 200 millions d'euros à l'opérateur et ils ont très largement perturbé le trafic voyageur et le transport de marchandises. Face à l'ampleur du mouvement, certains responsables politiques ont même réclamé sans succès de nouvelles règles pour limiter les grèves. Voilà donc donc un problème de moins pour la Deutsche Bahn, mais qu'il y en a encore beaucoup d'autres à régler, entre besoin d'investissement pour les infrastructures vieillissantes, retard incessant et endettement massif.
Sébastien Baer, en direct de Berlin pour France Culture. Le temps restera souvent gris demain, il pleuvra surtout dans l'ouest, mais le soleil sera de retour près de la Méditerranée. Les températures minimales iront de 0 à 10 degrés, les maximales varieront entre 10 et 14 sur la moitié nord, entre 14 et 18 de la Provence au sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.